The Artificial Kid est un cycle d'expositions et d'événements organisé à la Maison Populaire de Montreuil par Elsa Vétier, commissaire en résidence en 2022. Tout au long de l'année, ce cycle s'accompagne d'un programme radiophonique conçu en collaboration avec DU. Vu les articles, une lecture de Julie Sass dans le cadre de l'exposition XD.
Donc voilà, je finis par arriver sur le parking de cette station-service. Il devait être 17h, 18h par là. J'aurais pu vous dire exactement, mais j'avais pris une sortie sur la route 101, pas très loin du quartier français de San Francisco, dans le nord, quoi. Voilà, j'étais passée prendre de l'essence, mais j'avais le souvenir d'une petite supérette, en fait, attenante à cette station-service. Et voilà, je m'étais dit que j'allais passer y faire 2-3 courses. En fait, non, j'allais acheter un truc assez précis. J'allais chercher une sauce tomate en conserve. Enfin, je vous dis ça pour vous dire que j'avais quand même un objectif en tête et que j'allais effectuer cette tâche de manière un peu rapide, quoi. Et donc voilà, je passe la porte de ce petit supermarché et là, je constate qu'il y a plein de monde. Dans ce magasin, il y a plein de monde près des caisses, il y a plein de monde dans les rayons. Et j'ai le souvenir d'en avoir été assez agacée, voire un peu frustrée. Par ailleurs, c'est un magasin qui a la particularité d'avoir des rayons assez bas, de sorte à ce qu'en fait la tête des clients dépasse légèrement des rayons, ou plutôt des produits qui sont posés sur les rayons. Et voilà, ce qui augmente un peu en fait la sensation de foule. Un peu comme dans ce film américain qui s'appelle Danger immédiat. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a une scène dans un supermarché. Il y a deux personnages qui doivent se rencontrer. C'est une rencontre secrète. Et ils se repèrent comme ça, de loin. Et ils finissent par se retrouver dans un rayon à discuter en faisant semblant de regarder en fait, des produits de supermarché. C'est une rencontre amoureuse. Et ça se passe avant la scène du meurtre. Bref, donc j'essaye de me frayer tant bien que mal un chemin dans ce petit supermarché qui est donc bondé. Et je finis par arriver au rayon des sauces préparées. Je tends la main pour attraper mon produit. Et là, il y a quelqu'un qui me bouscule. Je sens une pression sur mon épaule droite. Un truc pas violent, mais désagréable, quoi. Et puis, sur le moment, je rationalise, quoi. Je me dis, voilà, il y a plein de monde. Il y a quelqu'un qui a essayé de se frayer un chemin dans les rayons derrière moi et qui m'a bousculé sans le faire exprès, quoi. Et je me retourne. Et là, je le vois. Il est en face de moi. Je le vois. À ce moment-là, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que c'est lui, quoi. Il est en face de moi, à quelques centimètres de mon corps. Je le regarde dans les yeux. Et lui me regarde dans les yeux aussi, d'ailleurs. Et il y a un moment comme ça, un peu suspendu, mais en même temps extrêmement chargé, quoi. Je ressens un truc vraiment très, très fort à ce moment-là. Une grande surprise, évidemment, mais aussi un peu d'effroi. C'est un moment assez sublime, en fin de compte. Un moment assez beau dans son caractère unique et en même temps un peu tétanisant, quoi. Ouais, un moment assez vertigineux. Et j'ai le souvenir d'un homme assez ordinaire qui portait une chemise ajustée, qui avait une barbe impeccablement rasée. Et voilà, encore une fois, il est là, il est en face de moi. Et puis, je sais pas, par réflexe, je l'appelle. Je l'appelle par son prénom. Je dis Xavier. Et à ce moment-là, l'intonation de ma voix n'est pas tout à fait celle d'une question, mais plus d'une conviction. Je cherche à consolider un ressenti, à vérifier une hypothèse, quoi. Et quand il entend Xavier, il se met à écarquiller les yeux dans une expression de parfaite surprise, quoi, de totale stupéfaction. Et en même temps, son regard, il y avait un peu de... Il y avait de la peur dans son regard. Je me souviens avoir vu de la peur. Et puis, voilà, il a tourné les talons et il est parti. Il est parti d'un pas pressé. Pas en courant, mais d'un pas quand même assez alerte, quoi. Il s'est éloigné et il a disparu. De nouveau, j'ai envie de dire. Et évidemment, j'ai beaucoup repensé à cet événement. Je me suis refait le film de cet événement, toujours selon le même scénario. Moi, ma théorie, c'est que si ça n'avait pas été lui, il ne serait pas parti comme ça précipitamment, quoi. Il m'aurait adressé la parole, déjà. Il m'aurait dit « Bonjour, madame ». Enfin, je sais pas, mais il m'aurait dit quelque chose à ce moment-là, quoi. J'ai vraiment l'intime conviction que c'était lui, quoi. J'en suis absolument persuadée. Alors, évidemment, il y a l'hypothèse selon laquelle cet homme n'ait pas été lui, mais quelqu'un qui, par le plus grand des hasards, se soit aussi appelé Xavier. Mais franchement, je crois pas. J'ai vraiment l'intime conviction que c'était lui, quoi. Et puis finalement, il y aurait une chance sur des milliers pour que ça ait été le cas. Et non, vraiment, je pense que je suis vraiment tombée sur lui, quoi. Et puis, voilà, évidemment, je me suis demandé quoi faire. J'ai rassemblé mes esprits, j'ai pris le temps de la réflexion et je me suis demandé quoi faire. Et au final, j'ai décidé de ne pas appeler la police. Ou en tout cas, pas tout de suite. En fait, mon raisonnement à ce moment-là, ça a été de me dire... Voilà, on ne l'a pas vu depuis des années, j'ai la preuve de son existence. Et en fin de compte, les personnes qui auraient le plus besoin d'avoir de ses nouvelles, ce n'est pas la police, c'est sa famille. Et du coup, j'ai cherché à contacter sa mère, en fait. Et puis, bon, de fil en aiguille, je suis entrée en contact avec l'avocat de la famille, qui me croit. Et... avec un ami d'enfance à lui, qui me croit aussi, on en a beaucoup discuté. D'ailleurs, il a utilisé mon témoignage dans son livre. Vous pouvez vérifier, c'est écrit noir sur blanc. Et voilà, je dois dire que ça me fait du bien d'être écoutée, d'être entendue par ces personnes. Je suis pas folle, quoi. Alors après, évidemment, il y a des méprises. Hein. Notamment, il y a un ami d'amis de ma cousine qui m'a raconté qu'un jour, son voisin avait été pris pour lui. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé il y a un petit moment, pas tant que ça non plus, mais il y a peut-être 5 ans ou plus. Et alors lui, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui habite à Poitiers. Un citoyen lambda... au-dessus de tout soupçon, vraiment, qui, un jour, un été, il me semble, reçoit un coup de fil chez lui. Et quand il décroche, c'est la police. Il a un officier de police au téléphone qui lui dit « Bonjour, monsieur, vous êtes convoqué au commissariat. Merci de vous y rendre dans les plus brefs délais. » Comme ça, sans autre forme d'explication. Un jour, la police vous appelle comme ça, vous somme de vous rendre au commissariat sans vous en expliquer la raison. Bon, à ce moment-là, il est évidemment extrêmement étonné. Il se demande de quoi il s'agit. Et il ressent vraiment une grande inquiétude qui confine un petit peu à l'angoisse. Il est très nerveux, ses mains tremblent. On voit clairement une goutte de sueur qui descend sur sa tempe droite. Et sa respiration est haletante, il a l'air d'avoir des palpitations. Enfin, voilà, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait est qu'en fait, son fils, adolescent à l'époque, était parti en voyage dans un pays lointain. Et bon, il avait de ses nouvelles, mais de manière quand même assez sporadique. Et sa femme était partie en randonnée dans la région ce jour-là, avec un groupe d'amis. Et vraiment, la première chose qu'il se dit, la première chose à laquelle il pense, c'est à ses proches. Et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que quelque chose est arrivé à mon fils ou ma femme? Du coup, il s'est rendu de manière assez précipitée au commissariat. C'était un commissariat de quartier, un commissariat pas particulièrement bien entretenu, assez petit. Il se présente à l'accueil et là, on lui demande de patienter dans une espèce de petite salle d'attente qui était un endroit assez exigu, pas très chaleureux et surtout traversé en permanence par plein de gens. Et là, donc, assis sur une chaise en plastique bleu, il se met à se remémorer les derniers échanges qu'il a eus avec ses proches, la dernière conversation au téléphone qu'il a eue avec son fils, la dernière chose que lui a dit sa femme avant de partir en randonnée ce matin-là. Surtout, il repense beaucoup au coup de fil du policier. Il repense beaucoup au ton employé par ce policier. Et plus il y pense, plus il entend une once de soupçon dans sa voix. C'est un ton composite qui disait à la fois l'autorité tranquille, l'exercice implacable du pouvoir et la suspicion. Et puis, bon, il arrive, finalement, il se retrouve devant un policier dans un des bureaux du commissariat. Et là, le policier lui dit, comme suit, « Vous avez été identifié à la caisse du supermarché Auchan, Poitiers-Sud. » Bon, évidemment, il est extrêmement étonné par cette déclaration, quoique rassuré que ça concerne pas ses proches. Et puis, il se remémore vaguement un vague reportage à la télé qu'il avait vu passer sur TF1 au journal de 20h il y a plusieurs années. Il en a un souvenir assez vague, mais il se souvient d'une famille nombreuse et d'un chien enterré sous une terrasse. Et puis, d'individus vêtus de combinaisons en plastique blanche, les mains gantées, qui manipule de la terre et des outils. Et le policier, précisément, lui montre des photos, leur présentant. C'était des photos qui avaient beaucoup circulé dans la presse, des photos d'assez mauvaise qualité, en fait, où on le voyait un peu sous toutes les coutures, avec des cheveux, le crâne rasé, avec des lunettes, sans lunettes, avec une barbe et sans. Et il se souvient en particulier d'une photographie où on le voit vêtu d'un costume et d'une cravate qui sourit à la caméra. Et il se souvient particulièrement de cette photographie. Il se souvient du sourire sur cette photo qui lui avait semblé un peu inquiétant. Mais bon, de toute évidence, il ne lui ressemble absolument pas, quoi. Et alors, le policier avait en fait conduit une espèce d'enquête de routine, en fait. Et il se trouvait qu'il avait en sa possession un certain nombre d'informations quand même assez précises sur son passage en caisse Auchan, Poitiers-Sud. Donc il avait une série de photographies qui étaient tirées en fait des caméras de surveillance du magasin où on le distinguait de loin, mais c'était pareil, image assez floue, mais on distinguait quand même assez bien son visage. Et on le voyait déposer des articles sur le tapis roulant de la caisse du supermarché. On le voyait aussi introduire sa carte bleue, dont le code de sécurité est 789, dans le terminal bancaire de la caisse. Ou encore saisir un sac plastique et y insérer un paquet de yaourts nature. Et voilà, la police avait en sa possession des informations assez précises sur ce qu'il avait acheté ce jour-là dans le magasin, sur le montant de la transaction aussi. Et ça, je me souviens, ça l'avait quand même beaucoup marqué, cette somme de détails en fait, que la police détenait sur lui. En fait, il ne s'était jamais imaginé qu'autant d'informations avaient pu être récoltées et transmises directement à la police. Il en parlait quand même beaucoup. Je me souviens, ça l'avait vraiment beaucoup travaillé, quoi. Voilà, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça relevait quand même pas mal de la pensée obsessionnelle à ce stade. Bah, ça, c'est terrible, hein, parce que ça conduit à des questionnements sans fin, qui génèrent de l'angoisse, qui génèrent des questions, qui génèrent de l'angoisse. Est-ce que la marque Auchan détient autant d'informations sur moi que le groupe Carrefour? Les magasins Leclerc ont-ils connaissance de mon alimentation sans gluten et, par voie de conséquence, seraient en mesure, par l'entremise d'un employé sous contrat intérimaire, de m'empoisonner un jour? Est-ce que Franprix m'écoute quand je fredonne mes chansons françaises préférées qui passent sur Nostalgie dans les magasins et détiendrait des enregistrements de ma voix qui seraient, qui serviraient à alimenter des banques de données d'intelligence artificielle reptilienne qui tenteraient de feinter l'authenticité poignante d'une vibration de voix humaine tentant d'exprimer le chagrin à des fins de manipulation. Je ne sais pas. Mais voilà, il y a de quoi être paranoïaque quand même. Et puis, donc ce monsieur était très perturbé par la somme des informations que la police détenait sur lui. L'interrogatoire n'a pas duré extrêmement longtemps. Il ne se souvenait plus des questions. Et puis, ils l'ont laissé repartir. C'était pas lui, quoi. Mais ça arrive, hein. J'avais lu aussi sur un forum, sur Internet, l'histoire d'une femme qui avait un collègue dont le fils avait un camarade qui avait pensé le voir un jour. C'était une histoire assez incroyable aussi. Alors lui, c'était un jeune homme de 18 ans, lycéen à Annecy. Et donc cet adolescent se trouvait ce jour-là à la terrasse d'un café à Annecy, le Café des Arts. Je ne sais pas si vous voyez ce petit café qui se trouve sur une place vraiment très connue d'Annecy. C'est juste à côté des anciennes prisons et il y a deux cours d'eau en fait qui encerclent la zone. C'est vraiment la carte postale d'Annecy, quoi. C'est le paysage le plus représenté sur les cartes postales à Annecy. Donc je suis à une terrasse de café avec mes amis de lycée, on boit des bières à ce moment-là. Il me semble que c'était au mois de juin, en fin d'après-midi. Et à un moment donné, mon amie Morgane se penche vers nous et nous dit « Mais c'est incroyable, le type qui est en train de boire un expresso juste à côté de nous, il lui ressemble mais comme deux gouttes d'eau, quoi. » Et alors en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas connaissance de l'affaire. C'était survenu il y a un an, il me semble. Et donc, il y a un ami à moi qui sort son téléphone et qui me dit « Mais si, regarde, c'est hyper connu. » Et qui donc me montre des articles, des photographies, enfin des tas de documents trouvés sur Internet sur cette affaire. Et donc, j'en prends connaissance avec lui. On regarde des photos. Et effectivement, ce type lui ressemble quand même beaucoup, quoi. Et puis... voilà, on est tous les 4, 5, je ne sais plus combien on était, à regarder des photos comme ça sur Internet, leur présentant, et à constater la ressemblance troublante avec cet individu. C'est un manège qui dure, je ne sais pas, peut-être 20 minutes quand même. Et je me souviens qu'on allait même... on faisait semblant d'aller aux toilettes du café pour se rapprocher de cet homme et le regarder d'un peu plus près. Enfin, c'était assez drôle, en fait. Et puis, plus on regarde des photos, plus on se dit « mais c'est incroyable, c'est quoi ? C'est assez énorme, hein, mais effectivement, il lui ressemble de manière extrêmement troublante. Si ça se trouve, c'est lui, quoi. » Et donc, mon ami Morgane, au bout d'un moment, nous dit « mais c'est peut-être énorme, mais si c'est lui, c'est quand même dingue qu'il soit là, à 2 mètres de nous, en train de boire son café tranquillement, comme ça. Enfin, je sais pas, il faut peut-être faire quelque chose, quoi. » On finit par se dire qu'il faudra peut-être appeler la police. Donc, mon ami Pierre prend cette initiative. Il appelle la police. Donc, on est toujours dans ce Café des Arts à Annecy. Il prend son téléphone, il appelle la police, à qui il explique la situation. Voilà, on a un groupe d'amis, on est au Café des Arts à Annecy. Et il y a un type à 2 mètres de nous qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bref. Et la police, au téléphone, commence à poser un certain nombre de questions. Des questions un peu de vérification, où est-ce que vous êtes ? On décrit l'endroit où on se trouve. Et puis plus ça va, plus les questions sont précises. Mais à quoi vous ressemblez ? La police nous demande à quoi on ressemble. Mon ami Pierre décrit mon polo vert à la police. Et la police finit par nous dire « Ok, c'est bon, on vous voit ». Et alors en fait, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que c'est un endroit voilà, très touristique d'Annecy, et donc il y a des caméras de surveillance un peu partout. Et la police a accès en fait à ces caméras de surveillance en temps réel. Donc la police nous voyait au téléphone avec elle dans ce café à Annecy. Et puis le temps de cette identification, donc il s'était peut-être passé 10 minutes. Évidemment, le type avait fini son café et était parti régler sa consommation à l'intérieur du café. Donc on en informe la police, on leur dit voilà, ce mec est en train de partir, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et là, la police nous dit, écoutez, vous allez suivre cet homme, vous allez le suivre à une distance raisonnable, vous le suivez dans la rue, on arrive. Et donc, tout en ayant la police au téléphone, on se met à prendre cet homme en filature, en gardant une distance un peu raisonnable, évidemment, avec lui. Donc on le suit dans les rues d'Annecy, sur un certain nombre de mètres quand même, ça a duré peut-être 10 minutes. Et voilà, cet homme finit par atteindre une petite place, je ne me souviens plus laquelle exactement, mais c'est une place où il y a un tabac, un supermarché et un pressing. Et à ce moment-là, la police à moto, effectivement, arrive. On voit un policier à moto arriver, enlever son casque, s'approcher de cet homme et faire un contrôle d'identité. Donc nous, on est toujours en retrait, on observe la scène de loin. On voit clairement cet homme sortir sa carte d'identité, la montrer à la police. On n'entend pas ce qu'il se dit, mais on sent qu'un contrôle d'identité a lieu. Il y a une conversation qui s'engage, dont on n'entend rien. Et puis, il y a une camionnette de police qui arrive aussi à ce moment-là. Donc il commence à y avoir pas mal de monde, il y a pas mal de policiers sur place. Et puis, au bout d'un moment, ils embarquent le type. Ils le font monter dans la camionnette et ils partent avec lui. Et on ne revoit plus cette personne. Et nous, on était restés un peu à regarder la scène et on les voit disparaître. Et évidemment, on se demande ce qu'il en est, quoi. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé la soirée tous ensemble à regarder les infos, à regarder le journal de 20h, à regarder sur Internet pour avoir des nouvelles un petit peu de ce qui s'était passé. Et puis, on n'a rien vu. Du coup, on s'est dit que c'était pas lui. République française. Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Direction générale de la police nationale. Affaire. L'an. Le. A. Nous. Grade. Affectation. En fonction à la circonscription. Étant au service. Exerçant une surveillance à bord du véhicule banalisé indicatif radio, assisté du gardien de la paix du service, remarquons, nous postons en surveillance fixe. Constatons que... Décrire avec précision le manège observé afin de faire référence aux éléments de l'article. Exemple, il existe une raison plausible de soupçonner qu'il s'apprête à commettre. Vu l'article, décidons de contrôler son identité. Il est, l'intéressé déclare se nommer et être né le A. Constatons qu'il est dans l'impossibilité de justifier son identité. L'invitons à nous suivre au service. Constatons que les gardiens de la paix de notre service, agissant sur ordre et sous notre responsabilité, mettent à disposition, contrôlés ce jour A, sur la base de l'article, qui n'a pas été en mesure de justifier son identité alors qu'il existait à son encontre plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à notre arrivée au commissariat et conformément à l'article, l'informant qu'il est en droit de faire aviser Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance 2 de la vérification dont il fait l'objet, ainsi que tout membre de sa famille ou toute personne de son choix. Il nous déclare verbalement, il prétend, il nous déclare, je demande que je demeure et mon numéro de téléphone est le. Prenons contact téléphonique avec, procédons ou faisons procéder aux vérifications suivantes. Interpellé sur le comportement 2, déclare que observation de la personne appelée en style indirect et bref. Au terme de ces vérifications, l'identité 2 n'étant pas clairement établie, nos investigations n'ayant pas permis d'établir que cette personne est recherchée ou mise en cause dans une affaire judiciaire, mettons fin à la mesure prise à son encontre ce jour A. Délivrons copie. Après lecture, persiste et signe. Je voulais remercier chaleureusement Elsa Vettier et la Maison Populaire et Du pour l'enregistrement. Et merci également à Tom et Bernard pour leur témoignage. Voilà.